Radio de la Paix, il est 12h. Le bulletin de midi, Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin de la mi-journée de ce mercredi 31 janvier 2024. Rumeur de décès d'un Ivoirien dans des incidents au Sénégal au soir de l'élimination de la CAN des Lions de la Teranga. L'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays dément l'information et appelle au calme et à la retenue. Et puis un sommet Italie-Afrique vient de se tenir à Rome sur les enjeux pour l'Afrique. Nous aurons les éclairages du professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en relations internationales. Et puis sur le continent, Job Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, a été libéré hier après plus d'un an et demi de détention à Harare. En toute fin, Constant Maillé sera avec Julien Tinguin, directeur technique de Lithieux, pour parler de l'industrie extractive qui se porte bien en Côte d'Ivoire. Ce sera dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà pour le sommaire. Rumeurs sur les réseaux sociaux à propos d'incidents survenus entre Ivoiriens et Sénégalais à Dakar après le match Côte d'Ivoire-Sénégal. La première conseillère de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays dément l'information selon laquelle un Ivoirien serait décédé à la suite de ces incidents, ajoutant qu'aucun citoyen ivoirien n'a été hospitalisé à Bouya Kokola. Marie-Cécile, qui a été jointe par nos confrères de la télévision nationale RTI, appelle les Ivoiriens au calme et à la retenue.
Nous avons été contactés par des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, des étudiants qui nous ont dit qu'un jeune Ivoirien aurait trouvé de la mort dans les manifestations de rue et que le corps serait à l'hôpital FAN. L'hôpital FAN, c'est le CHI d'ici. Automatiquement, nous avons saisi le directeur du protocole et l'ambassade. Nous nous sommes rendus sur les lieux à l'hôpital FAN pour procéder aux vérifications. Au niveau de la morgue, nous avons été reçus par le responsable en chef qui nous a dit qu'il n'y a pas enregistré de corps d'Ivoirien à la morgue. Nous avons vérifié aussi aux urgences, puisque c'est le nom de cet hôpital qui circulait sur les réseaux sociaux. Et le médecin en chef du service des urgences nous a aussi dit qu'il n'a pas reçu de blessés ivoiriens ni de morts enregistrés qui soient de nationalité ivoirienne. Mais je voudrais appeler les compatriotes ivoiriens au calme. C'est vrai qu'il y a eu quelques mécontentements de façon isolée, mais qui ont été ciblés et qui ont été contenus par les forces de l'ordre. Et donc, on appelle tout le monde au calme. Pour l'heure, ce qui a circulé sur les réseaux sociaux ne se sont pas avérés. L'ambassade continue les investigations dans les autres hôpitaux, mais pour l'heure, elle n'a pas enregistré de décès au niveau des Ivoiriens. Donc, je voudrais appeler les Ivoiriens au calme.
À l'instant, Abouya Kokola, Marie-Cécile, la première conseillère de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Sport et amour de la patrie sont fortement liés en général à la faveur de grands événements sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations. Un fort lien que le sociologue spécialiste en genre ivoirien Ghislain Koulibaly-Pelbien explique par le souci d'exprimer et agir en accord avec ce que l'on est, affirmant ainsi son appartenance à une nation tout en révélant aussi l'importance d'éviter de tomber dans les excès. Il est interrogé par Aoussi Potin.
Il faudrait entendre par l'amour de la patrie cette bienveillance qui voudrait qu'on se sente appartenir à un peuple. Et surtout l'amour de la patrie, ça se donne en sens unique, car c'est exprimer ce que nous sommes et c'est surtout agir en accord avec ce que nous sommes. Et donc, lorsqu'il s'agit de sport qui rassemble des ethnies, des religions, des obédiences politiques diversifiées autour du sport, on revendique notre attachement à une nation. Et ça, c'est un sentiment fort parce qu'on exprime l'amour pour sa patrie.
Comment concilier amour pour la patrie et le sport pour qu'on reste dans l'esprit du sport?
Le sport est un outil utilisé pour amener la paix. C'est un vecteur d'unité, c'est un vecteur de cohésion sociale. Mais attention, le diable aussi se cache dans le sport. Parce que le sport peut être facteur de violence. On peut produire des cas de violence Ça peut être des cas de harcèlement, des cas de violence psychologique en dehors des pelouses. Mais ce qu'il faut faire, c'est de comprendre que ce n'est que simplement du sport. Il peut avoir un perdant, il peut avoir un gagnant. Le sport, c'est le fair play. Il ne faudrait pas que l'enjeu vienne tuer le jeu.
C'était à l'instant le sociologue spécialiste en genre, Koulibaly Pelibien Ghislain. Plus de 50 délégations de pays africains ont participé dimanche au sommet Italie-Afrique en Europe, un sommet qui s'est étendu sur 2 jours. Le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Sur les enjeux donc de ce sommet, les explications de Bamba Aboulaye, professeur en relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
De prime abord, un sommet de plus, l'Afrique est devenue comme une femme qui est convoitée par tous. Les grandes puissances comme les moyennes puissances. L'Italie est une petite puissance en Europe. L'Italie estime également qu'elle doit chercher sa place sur le continent africain. Il appartient maintenant aux Africains de définir avec objectivité les contours de cette coopération. Voilà ce que m'inspire le sommet Italie-Afrique.
Qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans le contenu de ces différentes coopérations entre l'Afrique et l'Italie?
Et donc, la question de l'immigration, l'Italie est une porte d'entrée sur l'Union européenne. La question sécuritaire, voici un peu quelques enjeux. Ce sommet Italie-Afrique. Tout le monde est unanime que l'Afrique est le continent de l'avenir. Donc tout le monde se tourne vers l'avenir. Elle appartient maintenant au continent africain, aux Africains surtout, de pouvoir tirer un peut-être meilleur profit de ce reflux d'intérêt que ces puissances occidentales ou ces puissances tout court ont vis-à-vis du continent africain. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Ensuite, il faut que l'Afrique même prenne conscience également de ses potentialités et ne pas attendre que les CE viennent mettre en valeur ses potentialités. Et si nous, on parvient à mettre cela en valeur, on aura encore des revenus beaucoup plus intéressants que ce qui est donné par l'extérieur.
Bamba Aboulaye est professeur de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, joint par Désiré Gapinan. Il revenait sur les enjeux du sommet Italie-Afrique. Sur le sommet Italie-Afrique, voilà, sommet qui s'est tenu lundi et mardi dernier. Et puis, retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Quelles conséquences économiques pour les pays de l'Alliance des États du Sahel et l'organisation sous-régionale? Docteur Germain Cramaux, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, répond.
Effectivement, nous avons tous appris par voie de presse le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO et ce qui était plus ou moins prévisible au regard des tensions qui existaient entre les 2 parties, mais on avait toujours l'espoir que les choses s'arrangeraient vu que de plus en plus on fait la promotion des regroupements régionaux pour pouvoir faciliter le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest.
Pour vous, en tant qu'économiste, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision?
Le retrait de ces 3 pays aura certainement des conséquences négatives sur les 2 camps, aussi bien les pays qui se retirent que les autres pays de la CEDEAO, parce qu'il y a des liens qui existent déjà entre ces pays, qui permettent à ces pays d'échanger plus facilement. Donc il y a une suppression des droits de douane entre ces pays membres de la CEDEAO, mais avec leur retrait, ils deviennent des pays hors CEDEAO, donc il va falloir rétablir ces barrières tarifaires, donc ils vont avoir aussi un impact sur le coût de la vie des 2 côtés. Mmh. À cette illustration, nous voyons que le Mali est le principal pays importateur intra-CEDEAO, avec 28% des importations intra-CEDEAO, suivi par la Côte d'Ivoire, 25%. Mmh. Donc nous voyons que là, ce sont des pays qui font du commerce avec les autres pays membres de l'UMOA, donc leur retrait va impacter les 2 camps.
Docteur Germain Cramaux, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. CIRES, qui est le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, il était avec Jean-Claude Comé. Dans l'actualité sur le continent, Job Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, a été libéré hier mardi après plus d'un an et demi de détention dans la capitale Harare. Sikala, âgé de 51 ans, populaire et connu pour son franc-parler, est l'une des principales figures arrêtées ces dernières années dans le cadre de ce que les ONG qualifient de vaste campagne de répression de l'opposition menée par le pouvoir en place. Reconnu donc coupable d'incitation à la violence, l'opposant prison. Job Sikala avait été condamné par la justice à 2 ans de prison avec sursis. Et puis, on parle de sport, football. Pour les dernières rencontres, comptant pour les 8e de finale, le Mali a éliminé hier le Burkina Faso sur le score de 2-1 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les Aigles du Mali rencontreront donc les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale au stade de la paix de Boaké le samedi 3 février prochain à 17h. Et au stade Laurent Pokou de San Pedro, le Maroc a été battu par l'Afrique du Sud 2-0 et fit donc en quart de finale. Les Bafana Bafana seront opposés aux Requins Bleus du Cap-Vert le même samedi sous le coup de 20h. Les autres matchs en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire se joueront le vendredi 2 février prochain à 17h Nigeria-Angola et à 20h Guinée-République démocratique du Congo. Dernier temps fort de ce bulletin, l'invité de la rédaction et celui qui est en ligne avec Constant Maillé se nomme Julien Tinguin. Il est le directeur technique au Conseil national de l'ITIE. Entendez l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. Et selon le rapport 2021 de l'ITIE publié en 2023, le secteur a fait de bonnes performances. Ce secteur extractif connaît donc une embellie en Côte d'Ivoire et c'est ce qui ressort de cet entretien que nous vous invitons à suivre à présent.
Monsieur Tinguin, directeur technique du Conseil national à l'ITIE ou bien de l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Bonjour.
Bonjour Monsieur Maillé.
C'est quoi l'ITIE?
L'ITIE est un mécanisme volontaire qui vise à renforcer la transparence, la bonne gouvernance des revenus du secteur du pétrole, du gaz et des mines dans les pays qui sont riches au niveau de ces ressources extractives. Donc l'ITIE, si on veut résumer, est une initiative qui exige à ce qu'il y ait la divulgation au public des versements qui sont faits à l'endroit du gouvernement par les entreprises extractives et aussi les revenus que le gouvernement reçoit de la part des entreprises extractives.
En Côte d'Ivoire, où l'ITIE existe, qu'est-ce que l'ITIE a fait concrètement pour que ce secteur-là de l'extraction, en quelque sorte, soit protégé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'ITIE a fait?
L'ITIE élabore chaque année des rapports. L'ITIE échange avec le gouvernement, le secteur extractif, la société civile, les populations, sensibilise sur la base des rapports ITIE que nous élaborons et suscite des débats publics.
Parlons-en, les rapports. Le rapport de cette année, 2023, vous l'avez publié. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce rapport? Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Le rapport ITIE contient des chiffres et des informations en termes de production, en termes de revenus.
Comment se présente donc ce qu'on appelle la performance dont parle ce rapport de l'année 2021 paru en 2023, c'est ça?
Tout à fait.
Comment se présente cette performance-là?
Vous avez dit le rapport 2021 paru en 2023 parce que en réalité, nos rapports sont basés sur les données qui sont auditées, certifiées par les commissaires aux comptes des différentes structures. Et les entreprises, en général, fournissent leurs données certifiées, auditées de l'année N. Ces données sont disponibles en année N plus 1 au moins. Donc, c'est ce qui justifie cela. Donc, ceci étant dit, le rapport ITIE 2021 nous a permis de faire ressortir les paiements, donc les revenus issus du secteur extractif. Et nous pouvons dire qu'en 2021, les données qui ont été fournies par les structures étatiques et les structures extractives nous ont permis de comprendre que l'ensemble du secteur de mines et du pétrole, pour l'année 2021, les revenus ont atteint 435,87 milliards de francs CFA contre 389,86 en 2020. Donc, il y a eu quand même des progrès en termes de chiffres. En termes de performance, nous pouvons également relever le fait que au niveau social, il y a également des contributions qui sont faites par les structures pétrolières et minières qui ont permis d'améliorer également les conditions de vie des populations en termes d'infrastructures et autres. Il y a une amélioration également de la contribution du secteur extractif au niveau du budget de l'État.
On veut savoir, est-ce que vous vous intéressez aussi au phénomène de l'orpaillage clandestin?
Le gouvernement s'intéresse s'intéresse à cette question. Et au niveau de l'ITIE, ce qui est intéressant dans la norme, il est demandé à ce que le Conseil national puisse réfléchir à toute problématique qui intéresse le gouvernement, le secteur extractif et puis la société civile. La question de l'orpaillage intéresse le gouvernement au plus haut niveau, la société civile et le secteur extractif. À ce titre, nous avons dans notre plan de travail 2023 et 2024, nous avons intégré des recommandations de plusieurs études qui ont été réalisées, que ce soit par la société civile, que ce soit aussi par les structures au niveau international, pour voir comment adresser cette question et intégrer la traçabilité du secteur artisanal de façon globale, mais aussi de façon spécifique de tout ce qui est semi-industriel et industriel au niveau du rapport ITIE.
On veut avoir juste une idée sur l'ITIE et le processus de Kimberley. C'est un rapport?
Kimberley est une autre initiative qui concerne le secteur du diamant. Nous collaborons avec le processus de Kimberley puisqu'il s'agit de transparence et le secteur du diamant est également une ressource qui fait partie de la mission de l'ITIE. Mais le processus de Kimberley en lui-même, il y a un organe qui est adapté et qui a été créé comme l'ITIE qui met en œuvre ce processus.
Monsieur Julien Tinguin, vous êtes directeur technique au Conseil national ITIE Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Marilé.
C'était l'invité de la rédaction, Julien Tinguin, directeur technique au Conseil national de l'ITIE. Entendez l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. Invité la rédaction donc, qui répondait aux questions de Constant Maïlé. Un entretien qui met un terme à notre bulletin, le rappel de l'essentiel. Rumeur de décès d'un Ivoirien dans les incidents au Sénégal au soir de l'élimination de la CAN des Lions de la Teranga. L'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays dément l'information et appelle au calme et à la retenue. Et puis sur le continent, Job Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, a été libéré hier mardi après plus d'un an et demi de détention à Harare. Tout de suite, la revue de presse pilotée par Francis Cassie.
Bonjour à tous. Entre autres sujets dans vos journaux, seuls 5 au menu de notre revue de presse de ce